Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Valérie Richer qui vient du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. À l'espresso et à l'espresso allongé, le sujet sera la perversion narcissique. Notre collaboratrice et aussi des nôtres, Catherine Stassin, vient nous présenter son sujet sur les bienfaits de la nature. Alors tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On commence en chanson, bien sûr, comme à notre habitude, dans quelques instants avec Sarah May et la chanson s'intitule « Freedom ». Vous écoutez Folie douce, émission numéro 796.
Non, dans la vie, on m'a rien donné. J'ai eu de l'amour, tout ce qu'il en fallait. Et du merci, mes repères m'ont évité de perdre la tête. On m'a dit que je devais tout lâcher. Pas connu au port déjà fermé. Que si je vais pas encore percer, c'est sûrement que mon heure a déjà sonné. Et oui, j'ai fait des sacrifices. Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas. Dans les sabliers, mais personne ne veut le rattraper. On promet de ne pas oublier, mais une promesse est sacrée. Hein. Sur mon lit de mort, j'ai pas de regrets. Comme laisser partir l'amour de sa vie, tuer la folie de nos rêves. J'ai la chance de ne pas être seul au monde. Et quand la nuit tombe, enfin, j'ai que seul mon cœur me guide chaque jour vers mon destin. Alors pourquoi s'enfermer derrière les sourires, se cache de la tristesse. On fait avec ça, avec la passion. Aujourd'hui je vis ma vie, qu'il me juge ou pas. Je saute dans le vide, parachute ou pas. Aujourd'hui je vis ma vie, forte et vulnérable. Je saute dans le vide, qu'on me rattrape ou pas.
Synthonisé actuellement Folie douce, expert généraliste en santé mentale depuis 1991.
Je suis maintenant en compagnie de Mme Valérie Richer. Bonjour Mme Richer.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes, qu'on appelle, je pense qu'il y a des lettres, là, le RPSBEH, c'est ça?
Oui, c'est tout à fait ça. Ça fait un grand nom, donc on raccourcit avec des lettres.
Oui, mais ça dit quand même ce que ça a à dire. Comment vous pouvez nous présenter justement ce regroupement?
Le regroupement est existant. Il a été incorporé officiellement en 2011. Je ne sais pas si vous avez connu le rapport de Gilles Rondeau en 2004.
Oui.
Il y a beaucoup de démarches qui sont parties suite à ce rapport-là, qui parlait vraiment de s'ouvrir à la réalité et de répondre aux besoins des hommes. Donc, suite à ça, il y a un comité avec des organismes, des représentants de d'autres regroupements qui se sont réunis ensemble pour justement mettre sur pied le regroupement provincial à santé et bien-être des hommes. Le un des très grands objectifs sur lesquels les membres qui étaient tous bénévoles à ce moment-là aussi ont travaillé, c'est vraiment au niveau du plan d'action ministériel en santé et bien-être des hommes qui est arrivé en 2017. Donc, c'était ça a été vraiment un très, très grand dénouement pour les membres du regroupement puisque ça a été des années de travail pour maintenant avoir le plan d'action ministériel.
Avant qu'il y ait un regroupement, justement, au niveau de la santé et bien-être des hommes, est-ce qu'il y avait quand même des services, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de lien ou de. Parce qu'un regroupement, ça sert quand même au moins à diffuser l'information et avoir un certain lien avec toutes les régions du Québec, c'est un peu ça, là?
Oui, effectivement. Il existe des ressources pour hommes depuis de nombreuses années, d'autres qui sont plus récentes, c'est vraiment très varié. Il y a d'autres regroupements qui existent aussi. Je pense à Cœur d'Homme, qui est un regroupement de la région de Québec qui existe depuis, si je ne me trompe pas, une trentaine d'années, qui, eux, se spécifient, c'est vraiment un regroupement sectoriel, donc au niveau de la violence conjugale, tandis que le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes va être vraiment un regroupement transversal pour favoriser l'amélioration de la santé et bien-être des hommes en général. Ouais. Il y a d'autres regroupements sectoriels aussi qui existent, d'autres plus récents, d'autres plus anciens, mais qui vont vraiment travailler en fonction de secteurs d'activité, tandis que nous, on est vraiment plus transversal.
Est-ce qu'on peut déjà voir des résultats? Parce qu'il y a toutes sortes de facteurs qui font que peut-être la santé des hommes s'améliore, peut-être qu'on encourage encore plus les hommes à en parler, à consulter, à s'ouvrir finalement. Est-ce que vous constatez de votre côté justement une meilleure santé pour les hommes au Québec?
Bien, je vous dirais que justement, il y a des données qui sont plus récentes, qui ont été faites, un sondage somme sur la demande d'aide des hommes qui a été produit en 2017. C'est une demande qui a été faite par le regroupement provincial en collaboration avec le pôle d'expertise qui a été créé aussi suite au plan d'action ministériel. Ce sondage-là permet de mettre en lumière les facteurs facilitant une demande d'aide par rapport aux hommes. Qu'est-ce qui fait que les hommes consultent pas? Qu'est-ce qui fait que les hommes consultent? C'est quand même 25% de la clientèle masculine qui a souffert de détresse psychologique. C'est quand même un chiffre assez important. Donc, ce sondage-là permet d'avoir des données récentes qui n'existaient pas sur la demande d'aide des hommes et permet aux organismes pour hommes de s'adapter et de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour aider cette clientèle-là à recevoir des services.
Est-ce qu'on sait justement pourquoi les hommes consultent moins ou ont moins consulté dans le passé? Peut-être ça s'améliore, mais est-ce qu'on sait pourquoi? C'est peut-être une question, je crois, d'habitude. On n'a pas été habitué à s'ouvrir au niveau de notre santé mentale ou physique, quoi.
Bien, encore une fois, ce qui ressort au niveau du sondage, il y a l'inconnu. Souvent, les hommes disaient « si je sais ce qui m'attend, si je sais à quoi va ressembler une rencontre avec un intervenant psychosocial », parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent dans l'abstrait. Si je demande de l'aide, ça va ressembler à quoi? Est-ce que je vais être 1h30 étendue sur un divan à raconter ma vie? Est-ce que je vais rencontrer un homme, une femme? Est-ce que je vais avoir des questionnaires à remplir? Donc, ce qui est ressorti dans le sondage, c'est que lorsque les hommes connaissent un petit peu les démarches qui s'en viennent, ouais, c'est moins inconnu, ça les incite à demander de l'aide et à aller vers les services, là.
C'est ça, parce que c'est toujours flou, tu sais, quand on dit souvent, tu sais, aller chercher de l'aide, tout ça, mais ça reste toujours comme une espèce de concept, là. On ne sait pas trop par où commencer, puis est-ce qu'on en parle à nos proches, est-ce qu'on va voir un médecin, est-ce qu'on va voir un CLSC, je ne sais pas. Donc, c'est toujours un peu embêtant, puis c'est vrai que, comme vous dites, si les hommes savent un peu à quoi s'attendre, bien, ça les aide, là.
Et vous parlez des médecins. Dans le sondage, c'est 2000 hommes au Québec qui ont été sondés. Donc, c'est quand même un portrait dans différentes régions, de différentes situations. Donc, c'était quand même assez global comme portrait. Puis, le médecin ressortait comme un acteur important parce que la majorité des hommes mentionnaient que si la suggestion de les consulter venait d'un médecin, ils étaient pour faire la demande. C'était même plus significatif que si c'était le ou la conjointe qui suggérait d'aller consulter.
OK, c'est un point important. C'est quand même intéressant de ouais. Parce qu'il y a tellement de drames qui peuvent être évités. Tu sais, souvent, on dit que les hommes, il y a un taux de suicide quand même important. Puis il y a souvent des hommes qui, justement, ne demandent pas d'aide. Puis finalement, ça finit par un drame. Donc, si on peut sauver certaines personnes, je pense que c'est déjà un très bon point, là.
Tout à fait.
Dans votre regroupement, est-ce que vous êtes donc directrice générale du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes au Québec? Est-ce que vous voyez des différences selon les régions? Parce que vous devez desservir un peu les différents organismes. J'imagine qu'il y a des approches différentes, là, les gens en milieu urbain, Montréal ou les grandes villes, versus les milieux moins populeux, là.
Oui, nos membres pourraient effectivement vous parler de leur situation respective parce que c'est évident qu'en milieu rural ou en milieu urbain, les réalités ne sont pas les mêmes. Si on pense juste à... Je vous donne un exemple qui est quand même une ville, mais Drummondville, le système de transport en commun n'est pas aussi accessible que Montréal ou Sherbrooke. Donc, des fois, de se déplacer, d'aller vers les rendez-vous. Si on est en campagne, je pense, la semaine dernière, je m'entretenais avec une organisation qui travaille avec les familles agricoles. Donc, pour eux, toute la saison forte des récoltes, les hommes sont dans les champs, ils n'ont pas le temps. Donc, des fois, oui, la problématique est là, le temps manque et tout ça. Est-ce que c'est d'adapter les services? Est-ce que c'est d'être capable de se rendre à domicile? Est-ce que c'est de faire des services par téléphone? Le clavardage devient un petit peu plus populaire aussi. Ouais. C'est d'évaluer un petit peu tout ça. Mais oui, les réalités, dans l'étarquerie, ce ne sera pas les mêmes réalités qu'en Montérégie non plus.
Oui. Et comme regroupement, avez-vous des responsabilités, disons, de conseiller ou d'informer, le gouvernement, de donner un peu, de faire des représentations? Est-ce que c'est un peu dans votre mandat aussi, au niveau du regroupement?
On a l'aspect de représentation politique avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, oui, on essaie d'être la meilleure voix là, pour nos membres pour parler des réalités, des demandes et quels sont les besoins. Mais c'est sûr que tout ça est en développement aussi parce que le regroupement est relativement récent et il n'y avait pas de permanence encore tout récemment au regroupement. Donc, c'est sûr que c'était les administrateurs qui portaient le tout à bout de bras. C'était quand même demandant. Maintenant, il y a moi qui est en poste à temps plein et on a une agente de liaison aussi qui est avec nous à temps plein. Donc, c'est plus facilitant, justement, pour être capable d'offrir des services aux membres.
Qu'est-ce que vous visez dans un monde idéal? T'sais, on sait que c'est toujours la plupart aussi des organisations comme ça, soit les regroupements ou des organismes communautaires qui aident la population en santé mentale ou en problématique là, sociale, se plaignent souvent, c'est de l'argent, parce qu'avec l'argent, ils sont capables d'avoir les services qui viennent avec. Mais dans un monde idéal, vous voudriez que le regroupement devienne quoi ou comment vous voudriez qu'il progresse, justement, pour les prochaines années?
De devenir rassembleur, de devenir un acteur important en santé et bien-être des hommes au Québec, de permettre de démystifier toute la situation des hommes et de travailler vraiment pour l'équité et l'égalité des genres.
Ouais.
Les besoins des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, ben là, il y a des regroupements pour hommes, est-ce que ça veut dire que les regroupements pour femmes sont plus importants ou quoi que ce soit? » Absolument pas. Les femmes ont encore des besoins importants, il y a encore des inégalités. Les hommes sont plus les pères, si on parle juste du rôle parental de l'homme, c'est plus du tout le rôle parental d'il y a 50 ans où l'homme était à l'époque un petit peu plus pourvoyeur de famille. Aujourd'hui, il y a des multifonctions, les rôles sont partagés, les tâches sont partagées, les stress sont partagés. Donc, de part et d'autre, on vise vraiment l'équité, l'égalité entre les genres aussi, puis de pouvoir travailler à améliorer la situation de tous, mais oui, des hommes en général aussi.
Et c'est pas parce que ça s'appelle regroupement justement santé et bien-être des hommes que les femmes ne peuvent pas s'y intéresser. D'après, vous êtes directrice générale, c'est pas un homme qui en est... Tu sais, à quelque part, on doit s'entraider, là, c'est ça, c'est pas confiné au sexe masculin. Là.
Absolument pas, puis j'aime le point que vous apportez parce que ça faisait partie des objectifs du conseil d'administration. Si la présidente de notre conseil d'administration est une femme, on a beaucoup de membres masculins au sein du conseil d'administration et on y tient aussi parce qu'on est quand même un regroupement pour hommes, donc c'est important d'avoir cet aspect-là, mais la mixité est très bienvenue au sein du regroupement-là.
Oui. Au moment où on se parle, quels sont les services qu'on peut obtenir? Est-ce que si, des organisations se mettent en branle dans des régions, est-ce qu'ils peuvent vous appeler? Comment vous pouvez les aider ou qu'est-ce que vous pouvez offrir comme service, disons, en tant que regroupement?
Il y a différents aspects. C'est sûr qu'une fois par année, la majorité de nos membres vont participer une fois par année à notre rendez-vous national en santé et bien-être des hommes. Habituellement, il a lieu à chaque printemps avec un thème différent. Au niveau de la formation, c'est un colloque qui va être très, très pertinent et qui permet d'échanger autant au niveau de la recherche que de la pratique. Donc ça, ça fait partie d'un événement assez majeur au niveau du regroupement. On a la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes dont on fait la promotion à chaque année. On peut aider les régions aussi là, au niveau du matériel promotionnel, d'activités, des choses comme ça.
C'est quand cette journée-là? C'est à quel moment?
Tout le monde connaît le 8 mars, mais c'est le 19 novembre.
Ah, oh, OK. Parce que non, c'est pas très connu. Mais le 8 mars, c'est très connu, mais effectivement, le 19 novembre, c'est quand même bien de le savoir. Là.
Oui, puis ça fait partie de nos mandats aussi de faire la promotion de la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes.
Ouais.
Et de faire la promotion dans les régions pour qu'ensuite chacune des régions puisse faire des activités en lien avec cette journée-là et en faire la promotion pour sensibiliser les gens à la santé et bien-être des hommes.
Et ça prend des moments bien précis comme ça. T'sais, vous parlez du colloque, vous parlez d'une journée parce que, oui, à l'année longue, il faut que ça soit comme ça, mais s'il y a un moment qui peut au moins faire allumer une certaine, un intérêt, ou ben, t'sais, c'est déjà gagné. Après ça, les gens vont peut-être s'y intéresser plus, puis ça va faire des petits, là, c'est un peu ça.
Oui, tout à fait. Puis c'est sûr qu'un des grands objectifs aussi, tantôt je vous parlais du sondage sur la demande d'aide des hommes, il est découlé de ça beaucoup de priorités, entre autres d'être en mesure de répertorier un site Internet où toutes les ressources pour hommes pourraient être disponibles. Donc c'est sûr que pour une personne qui a peut-être une difficulté à aller cogner à une porte, à téléphoner, à tomber sur une boîte vocale, mais il pourrait voir dans sa région tout ce qui se fait comme service. Est-ce qu'il y a des besoins d'aide alimentaire? Est-ce qu'il y a des besoins de consulter en individuel? Est-ce qu'il y a des idées suicidaires? Est-ce que c'est un problème de violence? Peu importe, il sera en mesure de voir les services qui sont offerts pour lui.
Oui, c'est intéressant ça. Avant de terminer, est-ce que quelques instants encore, est-ce qu'on peut mentionner la meilleure façon, si vous avez différentes façons de pouvoir vous faire connaître, en fait? Il y a le site web, il y a Facebook. Pouvez-vous nous donner les informations, les coordonnées, en fait?
Oui, on a un site Internet qui est le rpsbeh.com. Vous pouvez voir sur ce site-là notre mission, nos objectifs. Si vous souhaitez devenir membre, les catégories de membres, le coût d'adhésion. Vous êtes en mesure de voir toutes les dernières publications aussi. Donc, par exemple, le sondage que je vous parlais tout à l'heure, il y a un webinaire en ligne dont vous pouvez avoir accès. Tous les résultats du sondage sont là aussi. À chaque année, les informations en lien avec le colloque et la Journée québécoise en santé et bien-être des hommes sont là. Mm-hmm. Vous pouvez commander votre matériel promotionnel. On a également notre page Facebook, qui est le regroupement provincial en santé et bien-être des hommes.
Donc, si on cherche ça, absolument, on va tomber dessus, dans le fond, c'est carrément ça.
Oui, tout à fait.
On va avoir le...
Dans cette page-là, on fait la promotion de divers outils et on essaie aussi de faire connaître davantage nos membres par le biais de la page-là.
C'est intéressant, non? C'est intéressant de vous connaître. C'est la première fois qu'on vous présente à la radio, mais c'est de notre côté. Mais c'est intéressant. On va suivre votre développement.
Merci infiniment.
Ben oui, ça va juste, je pense, grandir comme tous les bonnes idées comme ça. Je pense que c'est une bonne idée de pouvoir rassembler tout le monde. Merci beaucoup, Mme Valérie Richer, d'avoir été les nôtres. Donc, à l'émission Folie douce et à une prochaine et bonne continuation.
Merci, au plaisir.
Merci, au revoir.
Je suis si sage, sage d'habitude, mon chéri. Comme une image, image de lassitude dans la vie. Mais tu m'as braqué, je crois, ce soir-là.
Yeah. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance, je crois. Toute nue, c'est elle qui s'avance sur moi. Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue, c'est elle qui s'avance
sur moi.
Ce ciel est fait pour la romance,
je crois.
Toute nue, c'est elle qui s'avance.
Je sens les bagues qui me montent à la tête. Et je dis vague, vague dans la fumée, dans la fête. Je me suis offerte au luxe de tes mains. Je me vois trembler sans amour demain. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire. Et j'ai des centaines de flèches dans le cœur. Et j'ai des millions d'envies de te plaire.
Mais gazouillez, la bonne santé mentale vous titille. Suivez Folie Douce Radio sur Twitter.
Nous voici maintenant rendus au bloc Espresso. Bonjour Pierre Lapin.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, la perversion narcissique.
Oui, on parle des pervers.
Oui, les gros mots aujourd'hui.
En fait, oui, la perversion narcissique, on parle des narcissiques, il y en a plus qu'on pense. En fait, j'ai pris ça sur le site Internet. Qui s'appelle, tiens-toi bien, ça s'appelle Je récupère mon ex.com. Okay. C'est un site où on parle d'abord et avant tout des problèmes de couple.
Ouais.
L'article s'appelle Pervers narcissique, quatre signes le trahissant. Ici, on utilise le masculin parce que apparemment qu'il y a plus d'hommes qui ont ce problème de personnalité.
Okay.
C'est un texte écrit par Antoine Pétavin, qui est auteur français et spécialiste en situation de vie de couple. Il nous dit « L'homme pervers narcissique est comme un vampire. Il trouve sa proie et la fatigue jusqu'à l'épuisement. Manipulateur psychologique, il redouble d'intelligence et d'ingéniosité pour parvenir à ses fins. Quelles sont les caractéristiques d'un manipulateur? Peut-on vivre en couple avec un pervers narcissique et comment démasquer un tel profil? » Sujet à la mode de nos jours, la manipulation a toujours existé. Outil parfois indispensable pour capter l'attention d'un auditoire ou savoir se comporter en société, la manipulation affective peut détruire celui ou celle qui l'a subi. Les manipulateurs font l'objet de nombreux articles ou sujets de reportages. Mais qu'en est-il réellement de ce type d'individu? Que recherche le manipulateur chez l'autre? Comment démasquer un pervers narcissique? Êtes-vous en présence d'un conjoint présentant ce trouble? Si c'est le cas, comment gérer un conjoint manipulateur? M. Pétavin nous dit tout simplement un conseil, fuyez.
Prenez vos jambes à votre cou et fuyez.
Parce qu'apparemment, il n'y a rien à faire avec un narcissique, ou très peu en tout cas.
Ouais.
La définition, il n'existe pas officiellement de définition du pervers narcissique. En revanche, l'écrivain Paul-Claude Racamier en proposait la description suivante. Il nous dit « Le mouvement pervers narcissique se définit essentiellement comme une façon organisée de se défendre de toute douleur et contradiction interne et de les expulser pour les faire couver ailleurs, tout en se survalorisant. Tout cela aux dépens d'autrui.
Mm-hmm. »
Alors, on refoule ou on rejette ses problèmes sur l'autre.
Ça doit être des gens qui souffrent à quelque part, parce que
oui.
Si on rejette les problèmes sur l'autre, c'est qu'à
oui.
quelque part, on
c'est qu'il y a des problèmes.
Oui, puis on n'est pas de les assumer, puis de se dire, c'est peut-être à nous ces problèmes-là.
Exactement, mais tu vas voir plus loin que, oui, c'est vrai, tu as raison, ce sont des gens qui souffrent,
ouais.
mais qui ne veulent pas, absolument pas, ressentir leur souffrance.
Ou soit même le reconnaître, peut-être.
Et oui. c'est... Alors, une première caractéristique d'un pervers narcissique, c'est qu'il n'est jamais satisfait de quoi que ce soit.
Mm-hmm.
Quelles que soient vos paroles ou vos actes, rien ne sera assez bien pour lui ou pour elle. La haine est le ciment de son existence. L'homme pervers narcissique puise ses ressources et sa force dans l'agressivité. À la question « Le pervers narcissique est-il heureux? » nous répondrons « Non ». Un manipulateur est toujours jaloux du bonheur des autres puisqu'il ne peut obtenir le sien. Il aura donc tendance à détruire ce qu'il aime. Comme le dit Racamier, en amour, le pervers narcissique cherche à se défendre de toute douleur et contradiction interne. Ce n'est donc pas un être heureux et épanoui.
Et un être dur à vivre, épuisant sûrement pour l'entourage.
Extrêmement, oui. Ouais. Une relation naturelle et saine est impossible pour un pervers narcissique. L'homme manipulateur est incapable d'aimer. Malgré une image agréable en société, les manipulateurs cachent une profonde tristesse. Tout est faux. Leur apparence agréable et fragile, leur sociabilité, leur gentillesse. Le but du manipulateur pervers narcissique est de triompher de l'autre. Il est alors prêt à toutes les ruses, tous les stratagèmes pour y parvenir. Deuxième caractéristique, les pervers narcissiques sont incapables d'aimer tous les autres, même leurs propres conjoints. Ce sont des êtres froids, calculateurs, qui éprouvent une totale indifférence à faire souffrir l'autre. On dirait que c'est un peu sadique.
Donc, fuyez, comme tu disais tantôt.
Oui, ils sont néanmoins très doués pour simuler la tendresse et la douceur, ayant beaucoup d'attention dans le début d'une relation. Par exemple, il va y avoir des cadeaux, des fleurs, ou toutes sortes d'autres choses. Leurs attentions sont toujours des flambées superficielles, motivées par une satisfaction immédiate. Les manipulateurs se lassent très vite de leur proie. Les pervers narcissiques ignorent les véritables sentiments sincères. La séduction perverse ne comporte pas d'affectivité. Un manipulateur ne s'engagera jamais vraiment. Vous vous demandez comment réagit un manipulateur quand on le quitte? Mm-hmm. Sachez que les déceptions entraîneront par contre une immense faille pour son ego. Ils peuvent devenir colériques, animés de désirs de vengeance et de ressentiment. S'il se sent blessé, le pervers narcissique ne cesse de se venger du coupable qui l'aura déçu ou quitté. Autrement dit, c'est pas si facile.
Non.
Au contraire, un manipulateur qui quitte ne montrera aucune compassion devant la souffrance de l'autre. Tel un boulet trop encombrant, vous serez éliminé de sa vie rapidement. Quand un manipulateur vous quitte, vous devez mettre votre fierté de côté. J'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission.
Oui, tu vas poursuivre à l'Espresso allongé avec le même sujet, donc la perversion narcissique à l'émission Folie douce. Merci Pierre et à plus tard pour la suite.
Santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
J'accueille à nouveau notre chroniqueuse Catherine. Bonjour Catherine, Catherine Stassin, bonjour.
Bonjour Yvon.
Bienvenue encore une fois à l'émission Folie douce. Tu nous amènes un beau sujet cette semaine, les bienfaits de la nature sur la santé mentale. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça, la nature? Hein?
Bien sûr. C'est assez connu que l'exercice physique dans les espaces verts ou ailleurs a des bienfaits sur la santé physique, évidemment.
Ouais.
Mais ici, on va parler de santé mentale et donc on va voir comment la vitamine verte ou la présence en espace vert peut avoir des bienfaits sur la santé.
Est-ce qu'on l'appelle vraiment comme ça maintenant, la vitamine verte? Je trouve ça beau.
C'est-à-dire qu'on... Oui, en effet, on peut l'appeler la vitamine verte ou la vitamine G comme green.
Oui.
C'est un petit peu un trait d'humour parce que, bien entendu, cette vitamine en tant que telle n'existe pas, on est d'accord. Mais c'est donc les effets que peut avoir les espaces verts sur l'être humain et
la
sur
nature,
sa santé mentale.
Effectivement, puis c'est pas d'hier. Voilà. Je pense qu'on se sent bien la plupart du temps quand on voit en nature, la plupart des gens, c'est rare que vont dire que, à moins qu'il y ait beaucoup de moustiques ou quelque chose, des inconvénients comme ça, mais encore, l'effet est assez... On le constate assez rapidement. Là.
C'est ça, l'effet est important. Et en fait, il faut comprendre ce qui se passe dans notre corps parce qu'il y a vraiment des effets physiologiques, notamment la diminution... on sent la diminution du stress et de l'anxiété, tout d'abord, et aussi une augmentation de la confiance et de l'estime de soi.
OK.
Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement, en fait? Pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, en fait? C'est parce qu'il y a une diminution de l'hormone appelée cortisol. Donc, ça, c'est l'hormone du stress. Ça va donc, évidemment, être au bénéfice de la santé mentale. Et il y a aussi une augmentation des neurotransmetteurs, comme la dopamine et la sérotonine. D'accord? Donc, évidemment, ces éléments-là vont avoir un effet à court terme sur la santé mentale, un effet bénéfique. Il y a évidemment l'exposition en plus à la lumière du jour, donc le rayonnement UVB qui va permettre une métabolisation de la vitamine D, qui évidemment à prendre en compte, qui va permettre aussi un meilleur sommeil. Mmh. Mais vraiment, c'est la diminution de l'hormone de stress, la cortisone, et l'augmentation de la dopamine et de la sérotonine pour l'anxiété et les gens souffrant de stress.
Et en tout temps, même si quelqu'un n'a pas de problématique en particulier, quand on voit à l'extérieur et qu'on se promène un peu à l'extérieur, effectivement, il y a moins de stress puis il y a un meilleur sommeil souvent qui est atteint rapidement. Là.
C'est ça. Voilà, c'est sûr. Et alors pour ça, évidemment, il faut quand même un minimum de temps passer dans une semaine. On va prendre le temps qu'a étudié des chercheurs britanniques quand même pour avoir un repère.
Ouais.
Et ils ont estimé qu'il fallait passer 120 minutes, c'est facile à retenir, par semaine.
Par semaine, donc 2 heures par semaine.
Voilà, pas... dans un espace vert. Évidemment, les espaces verts, ça peut être une rue bordée d'arbres, beaucoup d'arbres quand même. Ça peut être un parc public urbain, ça peut être une zone rurale boisée. Un boisé, une forêt, ça peut être une plage aussi.
À Montréal, on est chanceux d'avoir le Mont-Royal.
On est chanceux d'avoir
le
Mont-Royal.
C'est un bijou, le Mont-Royal.
Voilà, mais on a aussi des quartiers qui sont très arborés. Donc, on pourrait s'arranger, évidemment, pour ne pas dans une zone où il y a trop de circulation.
Oui.
Si on ne veut pas aller dans un parc tout seul, on peut toujours aller marcher dans des rues arborées. Donc, il y a vraiment moyen d'aller trouver ces 120 minutes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce 120 minutes, il peut être passé, il peut être bénéfique pour la santé mentale, aussi bien si on fait de la marche que si on est contemplatif. C'est-à-dire qu'Yvan, tu pourrais t'asseoir sur un banc, admirer le paysage au Mont-Royal, pourquoi pas, et bénéficier quand même de ses effets.
Ouais.
Donc ce n'est pas uniquement la marche, ce n'est pas un exercice physique qui fait cela, c'est vraiment la proximité avec la nature et le bénéfice dont on a parlé auparavant par rapport vraiment aux effets sur le corps. Il y a aussi un autre élément dont les gens parlent, mais bon là il manque d'études un petit peu, c'est que la nature serait vraiment un besoin fondamental, la proximité avec la nature. Donc peut-être le fait juste de se reconnecter avec la nature, sans penser aux autres effets, pourrait être quelque chose de favorable à la santé mentale.
Ouais. Et ça coûte rien, hein, c'est ça?
Ça coûte absolument
On va
rien.
Le rappeler souvent, mais ça coûte rien. Il s'agit juste d'y aller puis d'être peut-être encouragé quand on parle de santé mentale. Des fois, on ne veut pas sortir.
C'est ça. Non. C'est ça. Et surtout, c'est valable pour les enfants, les jeunes, les adultes et les vieux.
Oui.
Donc, c'est valable pour absolument tout le monde et c'était vérifié par des études. Voilà. C'est certain que comme c'est valable pour l'ensemble de la population, il y a uniquement les personnes, évidemment, qui ne pourraient pas sortir. Mais ces personnes-là, il y a d'autres études qui pourraient les encourager à écouter des bruits de nature. Ça paraît un petit peu étrange au début, mais que ce soit des bruits d'eau, ou des bruits de nature, ça s'achète des DVD.
Et ça se trouve
CD.
Même sur Internet, ça se trouve
voilà,
gratuitement.
Voilà, exactement, en ligne, on peut trouver ça.
Ouais.
Et également visionner, il y a eu des expériences, simplement visionner des images de la nature, etc.
Ouais.
Donc, pour les gens qui ne peuvent pas sortir, ça peut être aussi bénéfique.
Parce que c'est ça, c'est tellement fort, hein, quand on regarde ça, c'est l'effet c'est le cerveau, j'imagine, qui capte ça, qui capte là, cet effet-là, qui retransmet là, un peu le bien-être que ça c'est supposé faire. Là.
Oui, c'est vraiment intéressant. C'est sûr que c'est complexe au niveau neuronal et je ne suis pas neurologue ni spécialiste, mais c'est vrai qu'il y a un bienfait, on ne peut pas le nier et,
ouais.
et c'est prouvé par des études extrêmement sérieuses parues dans Nature and Science.
Peut-être pas une conclusion, mais je me dis, on est nature nous-mêmes. J'imagine qu'en s'approchant de la réelle nature, la nature la plus brute, si on veut, peut-être que justement notre corps se reconnaît, donc finalement, il y a quelque chose une connexion qui se fait naturelle. Donc, c'est peut-être ça qui expliquerait cela.
Peut-être.
Faut
moi, je ne sais pas. Je n'ai pas une explication personnelle, mais je sais que c'est au point tel que les sites de Parc Canada et d'autres grands sites comme la CEPAC
mm-hmm.
Ont des pages qui affichent clairement les effets du bien-être, de la nature, de l'état de bien-être dans lequel la nature peut nous... maître. Donc, il y a même un programme qui s'appelle Aventure thérapeutique pour les jeunes avec la UCAM CEPAC, où les jeunes peuvent aller vraiment se plonger dans la nature. Il y a d'autres activités. Il a été aussi prouvé, par exemple, que les symptômes TDAH étaient diminués et régularisés pour les enfants qui avaient accès à des parcs des parcs urbains, excuse-moi.
Oui, absolument. Ouais. Dans le 120 minutes dont tu nous parlais, Catherine, j'imagine que c'est de l'échelonner aussi, c'est de ne pas faire, tu sais, le bienfait, c'est peut-être de le refaire le plus souvent possible, que ça soit récurrent dans une semaine.
Là. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi bien faire 10 minutes fois X, ou bien on peut faire 20 minutes jusqu'à ce que ça fasse 120 minutes.
Ouais.
Il n'y a pas, dans l'étude, il n'y avait pas de conclusion à ce niveau-là. Donc, l'idéal, c'est évidemment d'échelonner et pas de faire simplement 120 minutes, mais c'est aussi valable de faire le 120 minutes si on peut uniquement faire 2 heures le samedi.
C'est ça, c'est comme, ça va quand même avoir un bienfait sur sa semaine.
Tout à fait, Ouais. Oui. On voit qu'évidemment, ce sont des bienfaits à court terme. On le voit tout de suite, il y a un bien-être immédiat, même quand on sort d'une forêt et d'une marche en forêt ou d'un parc. Alors, il y a maintenant des études qui sont en cours pour évaluer à long terme les bienfaits. Et au Québec, quand on pense au Québec, il y a 80% de la population qui vivent en zone urbaine. Donc, il est sûr qu'à ce niveau-là, les décideurs de l'aménagement urbain et les communautés sociales, les membres, les entités de l'éducation, tout ce qui est développement économique d'une ville, tout le monde va devoir se parler pour pouvoir créer des espaces et assurer un bien-être à la population, puisque 80%, je le répète, des populations, de la population du Québec vit en zone urbaine.
J'ai une petite question, Catherine. Oui. Est-ce que le fait, on voit beaucoup de jardins communautaires un peu partout dans les zones urbaines, mais ça reste de la nature. On fait pousser des légumes, on fait pousser des herbes, peu importe. Est-ce que ça a un effet aussi?
Tout à fait. Ça a même été étudié. Donc, le fait de jardiner en communauté ou en jardin communautaire ou de marcher au sein d'un club, ça a été étudié, ça fait partie de ce qu'on appelle l'écothérapie et ça peut donc tout à fait contribuer, de même qu'une aventure thérapeutique ou une balade seule en forêt, au bien-être qu'on peut éprouver.
Et peut-être que l'aspect groupe, comme tu parles, tu sais, de dire on fait une marche en groupe, c'est qu'on va combiner la nature et l'effet d'entraînement, parce que de soi-même, tu sais, c'est toujours ça l'idée, c'est souvent de soi-même, c'est pas tout le monde qui a la volonté de sortir, de dire « faut que j'y aille », beau temps, mauvais temps d'ailleurs, peu importe la saison, que ce soit l'hiver, chaque saison, l'automne, l'été, le printemps, il y a des belles choses à faire, puis quand il fait trop chaud, bon, on cherche l'ombre, puis quand il fait trop froid, on cherche les zones où il n'y a pas de vent. Mais effectivement, c'est peut-être un point très positif peut-être de se trouver un groupe, tu sais, pour nous aider à faire ça. Hein.
En effet, et c'est certain qu'en plus, évidemment, des effets dont j'ai parlé sur le corps, il y a l'effet du lien social qui est créé. Pour les anxieux, les dépressifs, c'est aussi très important, parce que c'est un des bienfaits qu'une marche peut créer, en plus de la vitamine verte, c'est qu'il y a le lien social qui est créé également.
Oui, exactement. Donc, on invite les gens à sortir. Sortez. Trouvez-vous une raison, mais sortez. C'est un peu ça. Allez prendre l'air. Après, allez.
C'est ça. Profitez de la vitamine verte, elle est gratuite. Sortez. Et les gens qui ne peuvent pas sortir, essayez de pratiquer ce que j'ai cité, donc d'aller écouter des audios reproduisant les bruits de nature. Et puis même en hiver, ce ne sera pas vert, c'est sûr, dehors, mais il faut sortir également.
Et l'hiver, souvent, il y a un air qui est plus, on dirait, qui est plus sain, je dirais. Tu sais, l'air est plus est moins pollué, peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on
a l'impression. Vivifiant,
oui, c'est l'impression qui est plus clair. Donc, s'il y a quelque chose de bien aussi, d'aller prendre l'air, de bien s'habiller puis d'y aller.
Tout à fait. C'est aussi quelque chose qui est documenté, que la qualité de l'air va bien irriguer le cerveau et c'est tout à fait documenté. Et donc, c'est sûr qu'il faut sortir, respirer de l'oxygène et de l'air non pollué, parce que l'un est plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Merci beaucoup pour ce sujet, Catherine Stassin. Donc, les bienfaits de la nature sur la santé mentale. On va certainement se revoir pour une autre chronique. Merci beaucoup d'avoir été là avec nous.
Au revoir.
Au revoir.
Moi, j'aime ça écouter plein de styles musicaux, mais je dois admettre que j'ai un penchant pour les haricots.
admettre que j'ai un penchant pour les haricots.
Vous écoutez Folie Douce, témoignages, entrevues d'experts, chroniques, toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission.
Nous poursuivons donc avec l'espresso allongé et le sujet entamé plus tôt, la perversion narcissique, Pierre.
Oui, les narcissiques, d'après un article sur Internet qui s'appelle « Pervers narcissique », 4 signes le trahissant. C'est sur le site jerécupèremonex.com.
Et ne vous en faites pas, on nomme pas de nom et on donne pas d'adresse non plus.
Oui, on se demandait si on en connaissait, mais on n'attaquera pas personne.
Non, on va...
Le manipulateur pervers narcissique simule l'admiration. Un manipulateur encense toujours sa victime au début d'une relation. Vous êtes doté de toutes les qualités. Vous êtes la plus belle, la plus sympathique, la plus douée. Comme je disais un peu plus tôt dans l'émission, ce sont plus les
plus
hommes.
Les hommes qui sont comme ça. Ouais, hein, ouais, ça. Ouais. Un trait masculin.
Ouais, ouais. Alors, vous semblez être son seul centre d'intérêt et le monde tourne autour de vous. Méfiez-vous. Cela ne lui servira que pour mieux vous atteindre ensuite et créer un effet de surprise. Le but du pervers narcissique est de vous mettre dans le doute et l'incompréhension. Très séducteur, le conjoint pervers narcissique utilisera ses atouts pour s'imposer et se rendre indispensable dans votre vie. Troisième caractéristique du pervers, c'est le harcèlement. Le manipulateur inverse souvent les rôles, se rendant victime à la place du bourreau.
Donc, il joue la victime un peu, c'est un peu ça.
Ben, quand c'est le temps, oui.
Quand c'est le temps de fesser, on joue la victime.
On dirait que c'est un bon acteur.
Ouais, c'est un manipulateur, ouais. Finalement, comme ouais. Tu disais.
Alors, lors des séparations, par exemple, il sera la pauvre victime abandonnée, ce qui leur permet de trouver un autre partenaire assez rapidement qui voudra les consoler, entre guillemets. Mm-hmm. Le pervers narcissique ira souvent vers des femmes sensibles, maternelles, qui souhaiteront s'occuper de cet animal perdu, entre guillemets. Cela n'est qu'une illusion pour mieux vous mettre sous sa coupe et vous manipuler à sa guise. La perversion réside dans le fait qu'il instaure une dépendance de l'autre envers lui. Il aura des exigences que son conjoint ne pourra jamais satisfaire. Mmh. La demande dépasse souvent les capacités du conjoint, qui sera alors vu comme un incapable ou une personne sur qui on ne peut pas compter. Une autre tactique de harcèlement moral sera d'isoler sa victime de son entourage et de ses amis, de sa famille, pour ne plus avoir comme seul point d'ancrage que son conjoint pervers. Ainsi isolée, la victime pourra subir toutes les brimades du manipulateur. Un autre conseil, et deuxième et dernier conseil, conservez vos proches. Un narcissique peut-il aimer? Oui, il s'aime lui-même, infiniment d'ailleurs. Le narcissisme est l'amour excessif porté à l'image de soi, selon le dictionnaire Larousse. Les pervers manipulateurs n'ont que peu de place pour aimer les autres. Et quatrième et dernière caractéristique des pervers narcissiques, c'est le déni. Un manipulateur peut-il quitter sa victime? La réponse est oui. Lorsqu'un manipulateur décide de rompre, ses sentiments ne sont que peu ou pas du tout exprimés. L'homme pervers narcissique ou la femme se détache de sa victime lorsqu'elle ne le nourrit plus suffisamment. Ainsi, une personne qui refuse de se laisser manipuler, qui se rebelle ou se protège, aura de grandes chances d'être quittée par le pervers narcissique. Bien entendu, celui-ci ne se laissera pas aller à la nostalgie ou au regret. Il passera très rapidement à autre chose. Ça, c'était les quatre caractéristiques. Maintenant, pour terminer, on ajoute comment blesser un manipulateur narcissique.
Comment blesser dans le sens pour se défendre?
J'imagine, oui. Alors, on nous dit, beaucoup d'entre vous se demandent comment faire souffrir un manipulateur. Pour réussir à le toucher et lui faire mal, il faut le blesser dans son ego, le déstabiliser au point de générer des doutes. Si vous êtes sûr et certain ou certaine d'avoir affaire à un pervers narcissique, vous pourrez lui faire part de vos doutes. Faire souffrir un manipulateur narcissique n'est cependant pas évident. Son caractère difficile à cerner donne du fil à retordre à celui ou celle qui rêve de le blesser. le quitter ou lui dire ces quatre vérités pour être libérateur. Pour énerver ou faire souffrir un pervers narcissique, la meilleure chose à faire est de travailler son développement personnel afin de prendre l'ascendant sur lui.
De montrer qu'on est... On est sûr de soi.
Oui. Ouais. C'est grâce à l'indifférence et la confiance en soi que l'on peut réussir à déstabiliser un homme manipulateur. Autrement dit, si le manipulateur s'aperçoit qu'on n'est pas
victime, ouais, qu'on est capable peut-être d'avoir conscience de ce qui se passe,
ça va le déstabiliser.
Ça va comme le, ouais.
Et finalement, la réaction d'un manipulateur démasqué. Le comportement d'un manipulateur démasqué reste fidèle à son image. Il n'hésite pas à mettre en avant les faiblesses de sa proie en la faisant culpabiliser. Le pervers narcissique ne va pas hésiter à se moquer de sa victime en lui laissant croire qu'elle se trompe, qu'elle est faible et paranoïaque. En conclusion, n'oubliez pas que le pervers narcissique est un bon acteur et qu'il peut se cacher derrière une personne d'apparence tout à fait inoffensive. Il s'agit en tout cas d'une personne avec laquelle vous entretenez un lien étroit et qui vous manipule, vous fait du mal et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Les conseils ci-dessus vous seront très, très précieux. Conservez-les dans un coin de votre tête. Donc, les deux conseils, c'est fuyez et résistez. et conservez vos proches.
Avais-tu lu quelque part dans tes informations, est-ce que ça touche beaucoup de monde? Est-ce que c'est quand même quelque chose qui est fréquent? Parce que, tu sais, ça demeure une espèce de trait de caractère un peu étrange. Ouais. Là,
c'est qu'on n'a pas de...
De statistiques comme
telles. Statistiques là-dessus.
Ouais.
Mais je répète, le nom de l'article, c'est « Pervers narcissique, quatre signes, le trahissant » et c'est écrit par M. Antoine Pétavin, qui est auteur français et spécialiste en situation de vie de couple.
Et comme d'habitude, les références sont toujours sur notre site web, vous avez à peu près en note, vous allez sur le site antenne.qc.ca, vous allez dans la section « mentionner l'émission », puis normalement, selon le sujet, vous allez pouvoir trouver le lien et aller lire l'article.
Exactement.
Merci beaucoup, Pierre, pour le sujet. Donc, la perversion narcissique.
Mon pays n'a pas de frontières, il n'a pas de couleurs, je suis un enfant de la terre. Sur la terre sacrée, on a marché pieds nus, au fil des saisons, on a compté les lunes. On a su lire le ciel, en guise de boussole, acquis le respect, car l'homme n'est pas seul. On calculait le temps grâce au soleil, transmettait notre histoire de bouche à oreille. Mon pays n'a pas de drapeau, car on est tous les mêmes derrière nos couleurs de peau. Connectés à la voix du Créateur, guidés par les oiseaux migrateurs. Aborigène à mes ancêtres, j'ai obéi, lié à la terre, en parfaite harmonie. Porté par elle, je retournerai poussière. Je suis un enfant de la terre. Une mère nourricière, porteuse de vie, des forêts en guise de pharmacie. Depuis toujours, on se nourrit de la terre, d'air, de la mer, des lacs et des rivières. Des millénaires sans besoin matériel, juste un chemin éclairé par le ciel. Une poussière qui a fait naître l'âme, un souffle de vie porté par la femme. Mon pays, je le porte à l'intérieur de moi, et je n'oublie pas les peuples d'autrefois. On n'hérite pas de la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. De toute façon, cette terre n'est pas à nous, on est à elle, on forme un tout. Ici, je suis qu'une âme passagère, je suis un enfant de la terre. Chez moi, c'est chez toi. Tout ce qui compte, c'est de savoir où l'on va. Un cycle de vie toujours en mouvement. Des nomades transportés par le vent. Au climat, on a su s'adapter. Dans les pires conditions, la femme a dû enfanter. À la famine, on a survécu. Malheureusement, certains peuples ont disparu. Nos erreurs ont servi d'apprentissage. Autour d'un feu, on écoutait les vieux sages. Une sagesse connectée à l'esprit. Leur voix était utile à la survie. À mon pays, je reste enraciné. Dans ma tête résonne la voix des aînés. Un jour, j'irai rejoindre mon père. Je suis un enfant de la terre.
dragon dragon dans combat nada me grande ni gango cara yo cabello.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques mots pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce. Alors, Pierre Laporte, on va y aller avec la nomenclature des chansons entendues cette semaine. On a entendu en début d'émission Freedom.
De Saramé.
On a pu entendre Candide Croche.
De Thérapie Taxi.
Dans la deuxième demi, Zoutan Zideko.
Oui, c'est le Winston Band.
Et à l'instant, Enfant de la Terre.
De Samia.
Voilà, merci beaucop pour le choix musical et merci également pour ta mise en onde.
Bienvenue, mon cher.
En même temps, je te remercie pour le sujet de la perversion narcissique. Pas que c'est un, pas que c'est des êtres intéressants, mais c'est intéressant de savoir que ça existe et mieux comprendre la problématique. Ça, merci beaucoup pour ça. Notre invité était donc Valérie Richer qui nous a parlé du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. On a eu également notre collaboratrice Catherine Stassin qui nous a amené son sujet, les bienfaits de la nature. Alors, c'était le menu de Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie Douce. Au revoir.